Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 18 avril 2009. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le bêtisier des bêtisiers que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
XD va miser surtout sur les sports de Jones, tu vois quoi, le skate, le roller, des trucs comme ça quoi, tu vois.
Le bong, le vol à la tire, la tournante.
Voilà.
Tout à fait.
C'est Xavier qui l'a dit. Hein.
Le binge drinking.
Mais ça m'a échappé. Mais c'est une suggestion que je fais.
Mais bien sûr.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour monsieur Ultimatum.
Bonjour monsieur Descritch.
Et comment vas-tu?
Et toi, ça va bien?
Ah ouais, depuis que j'ai vu les cours de tournante sur Disney XD, je suis super content.
Eh ben dis donc.
On n'était pas là la semaine dernière, on s'est pris un petit peu de repos. C'est pas qu'on est allé chercher les œufs ou des noises à qui que ce soit, c'est que tout simplement on était... sur le départ, voilà, du sport, lui, il a quand même fait son service minimum, mais on s'est dit, bon, allez, on fait un petit break, sachant que la semaine prochaine, on n'est pas là non plus, puisqu'il y a une émission en extérieur, mais il faut qu'on prépare lourdement, c'est bientôt la 200e, ça devrait arriver normalement fin mai, début juin, la 200e du supplément week-end.
Il faudrait qu'on se bouge un petit peu pour préparer quelque chose.
Oui, ben moi je m'occupe du site, toi tu t'occupes du reste, hein. Ça te ferait du bien de faire préparer une émission, je sais pas, un truc comme ça.
Je sais pas, bon toi t'es animateur producteur, c'est ton rôle en même temps.
Ouais, c'est ça.
On demandera
tant que t'y es, tu vas te barrer à Rio, c'est ça.
Oui, on demandera à JB limite.
Ouais, quand le lecteur voudra, il veut pas, merci. Ah. Voilà, non, c'est que je me suis trompé de lecteur, tout simplement. Rio ne répond plus, ça sera tout à l'heure. Voilà, on a une interview aussi, c'est la première d'ailleurs interview que Thomas a réalisée.
Tout seul,
voilà, comme un grand. Et hop, lâché avec le micro, l'enregistreur, le Nagra qui pèse une tonne et ses 14 piles dans le réservoir et ses grosses bandes de demi-pouces.
Pendant ce temps, Xavier frémissait, oh, pourvu qu'il me le pète pas, mon demi-disque, pourvu qu'il me le pète pas.
Pitié. Enfin bref, tout ça. Aujourd'hui, si vous nous écoutez en direct, bien évidemment, hein, et que vous êtes sur Toulouse, sachez qu'il y a, on a reçu l'info... tardivement.
Oui,
ce matin, voilà, la 4e édition du festival BD Bulle d'Ombre. C'est pas comme si on les avait pas reçus en même temps, hein. C'est pas comme s'ils connaissaient pas notre adresse. Enfin bon, c'est toujours à la salle des fêtes de l'Imerac, comme l'an dernier, rue Xavier d'Arras. C'est 10h à 19h, c'est aujourd'hui et demain. Avec, entre autres, Jérôme Le Reculé, qui est le scénariste et le dessinateur de la série Arthur chez Delcourt, qui est une vision, je vais dire, primaire, hein, du mythe d'Arthur. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'épée Excalibur. Par contre, vous avez du massacre et tout ça, et c'est dessiné de manière enluminure. C'est très lyrique, c'est sur l'histoire primitive d'Arthur. Je sais pas,
oui,
ce que tu en souviens.
C'est primal même.
C'est primal, tout court.
Voilà.
Il a participé aussi à la série des 7 recueils 7 avec 7 voleurs. Et donc, il lance une nouvelle série qui s'appelle Veillée funèbre chez Delcourt. Il y aura Algésira, la dessinatrice de Candélabre, qui sera présent, Baptiste, Isabelle Bautian, Luigi Critone, Damien, Horn, dont on va parler tout à l'heure avec l'adaptation de La Métamorphose de Franck Kafka, Le Pitec, Nicolas Otero, Cyril Pomès, qui sera en dédicace après le week-end suivant à la librairie Album, Nadine Thomas, qui est coloriste et qui fera les démonstrations à la palette graphique, Xael, et Joseph Lacroix, et Suart aussi, qui est et coloriste, avec aussi donc des séances de dédicaces et fanzines. On pourra acheter sur place des bouquins. L'intro est de l'entrée est de 3€ la journée, 5€ pour les deux jours, gratuit pour les moins de 11 ans, tarif réduit pour les étudiants, etc. Et puis voilà. Bon, allez, c'est sympathique. C'est toujours sympa si on sort. Je veux dire.
Bah là, en espérant qu'il fasse beau, hein, puisque l'année dernière, je crois que c'était, faisait un peu mauvais. Ça n'avait pas aidé.
Là, ça va. J'ai l'impression que ça va. La semaine prochaine, il y aura aussi le Festival du jeu, entrée gratuite, 24 au 26 avril. C'est au Parc des Expos de Toulouse, hall 8. Avec des, c'est vendredi 18h à 2h du matin, samedi de 11h à 2h du matin et dimanche jusqu'à 19h, faut quand même pas pousser. Donc vous avez des démonstrations de jeux de figurines, de jeux de rôle, de jeux surdimensionnés, de jeux de groupe, il y aura des loups-garous à 20 personnes.
Ah oui. Ah, il y aura des extensions là.
Ouais, il y aura un espace petite enfance, il y aura des en présence d'auteurs de jeux comme Bruno Catala, Robert Fraga, Ludovic Montblanc, Philippe Despaliers, Amboza, Laurent Escoffier, plus de 200 animateurs, 400 jeux en démonstration. Tout le programme est sur toulouse.festivaldujeu.fr. À vendredi, ça commence par un tournoi réservé aux plus de 18 ans puisqu'il s'agit de poker.
Ah. Bah en tout cas, moi j'y avais été là il y a 2 ans et c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Vous y allez, vous êtes avec des amis, vous vous laissez entraîner parce qu'il y a les représentants des jeux qui veulent vous faire essayer leurs jeux. Donc vous essayez. Il y a c'est l'occasion de découvrir certains trucs.
Ça vaut vraiment le coup, sachant que certaines participations sont faites par des associations qui demandent quand même à ce qu'il y ait une mise minimale. Hein, je veux dire, ce que vous participez parce que c'est fait par des bénévoles et qui louent l'espace, ça c'est une obligation par des expos. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. C'est accessible en plus relativement facilement. S'il fait beau en plus, ce sera une bonne occasion. C'est la 8e édition donc du Festival du jeu. On aurait dû mettre le lien en direct sur le site. On le fera. Ouais, bah on n'est pas arrivé avec les PC. On le fera la prochaine fois. À noter aussi que le même week-end, il y aura le salon du livre et du vin, et là, j'y serai pour les raisons purement intéressées à déguster un petit Bordeaux, je ne vous dis pas. Modération.
C'est à Balma, ça.
Ouais, entrée gratuite, donc il y aura du polar, du roman historique, et aussi donc des producteurs de vin qui viennent faire goûter et vendre par la même occasion leur production. C'est une bonne occasion, justement, de rencontrer des producteurs de vin. Puisque vous savez qu'il y a 20 propriétés ou 20 de négociants. Les 20 de négociants, c'est 20, vous savez, les gens, ils achètent à plusieurs châteaux et puis ils mélangent pour faire un goût unique. Là, non. C'est du vin de propriété, donc qui est élevé vraiment par un éleveur champion. Non, je déconne. Loin de là. Il y a même, justement, producteur de Bordeaux qui vient. Il a écouté de temps en temps Supplément Week-end.
on mettra en podcast. Étonnamment, on mettra quand même des flyers alors.
Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Thomas, lui.
Oui.
Et qu'est-ce que tu es allé faire en décembre dernier dans le nord, au pays des ch'tis?
Je suis allé à la convention Ankama dont nous avions déjà parlé dans cette émission et c'était l'occasion de rencontrer un auteur d'une BD qu'on avait déjà chroniqué ici qui s'appelle Freak Squeal. C'est une BD de super-héros tendance un petit peu comédie, c'est un nouvel éclairage sur l'univers du super-héros, un peu comme Mertonville mais un peu plus barré. C'est-à-dire c'est une école qui forme aux super-héros, alors vous avez plusieurs catégories, vous avez des partiels à passer, etc. Et donc là, je vais vous parler un petit peu du tome 2 avant d'enchaîner avec l'interview. Donc c'est fait par Florent Maudou qui scénarise et qui dessine et c'est édité chez Ankama. Et le tome 2 s'appelle « Les chevaliers qui ne font plus ni ».
Légère allusion, j'ai l'impression.
Légère allusion, ce n'est pas la seule hein, dans l'album au Monty Python et à Sacré Graal. Alors ça raconte justement à la faculté d'études académiques des héros, le trio d'élèves sorti vainqueur de l'enlevage de Pario du premier tome. Puisque c'est vrai, le premier tome se finissait, le partiel en fait c'était de enlever le plus de Pario aux autres équipes, aux autres trios. Et donc on avait quand même un festival de fanservice vraiment revu un petit peu avec un œil assez coquin. Enfin coquin je veux dire, assez rigolo, pas coquin érotique. Et justement, ce trio doit désormais réussir l'examen final de la première année, un exercice visant à connaître leurs ennemis. Et pour cela... Eh bien, rien de plus simple que d'élaborer sans même un plan pour conquérir le monde. Alors, vous allez devoir... vous allez devoir vous allez devoir donc vous faire chapeauter par un des profs de l'école justement leur soumettant le projet de conquête du monde, et puis s'ils estiment que c'est assez intéressant, et bien ils vous chapeautent, ils deviennent votre tuteur.
Et vous allez voir la Flanders Company
par exemple. Alors par contre vous connaissez un petit peu si vous connaissez un petit peu l'école un peu bizarroïde, vous dites tiens, c'est peut-être pas innocent ce sujet. Alors dans un grand hommage effectivement au Monty Python et au cinéma asiatique, alors on peut retrouver pêle-mêle des soldats en pain d'épices, une armure défendant des tapisseries, des chaussettes exorbitantes pour téléphone, on a même une collection de peluches cachées dans une forêt obscure. Donc vous voyez, c'est un mélange de kawaii, de... Alors cet album, il est placé sous le thème de la poupée, du golem, puisqu'on a une armure vide qui est un petit peu, pas hantée, mais qui rappelle furieusement, bizarrement, une armure de Full Metal Alchemist. Étonnamment, elle a le même prénom, Al. Donc c'est voilà, c'est sur le thème du golem. Donc il y a les pains d'épices qui avec une formule commencent à s'agiter, etc. Avec on voit que certains personnages assez connus des protagonistes ont élevé aussi une collection de poupées. Et le scénario est beaucoup plus fouillé que le 1. Tu te dis vraiment la série commence à devenir intéressante. Ça laisse augurer de jolis tomes par la suite. Le passé de Ombre. Donc Ombre, c'est parmi le trio, c'est l'espèce de loup-garou là qui est avec eux.
Passe
avec
le
elle.
Bouquin, passe.
Tiens, je te passe le bouquin. Merci. Ça c'est le tome 1.
Parce que c'est frustrant quand même de mixer l'interview sans regarder.
Voilà, donc Ombre, on voit son passé un peu plus.
Ah ouais, fan de service. Ouais, et oui. D'accord.
Donc, et comme tu peux le voir, on a plusieurs styles dans la BD, donc des pages en noir et blanc, des pages en couleur. Mm-hmm. On a aussi, il mélange aussi plusieurs styles dans le noir et blanc. On a du hachuré, on a plutôt du kawaii, on a du réaliste, du simpliste.
Du sain.
Du sein aussi. Ouais, mais c'est jamais trop tendancieux quand même. C'est toujours un peu par des moyens un peu tarabiscotés pour te faire comprendre que c'est du sein sans te montrer en pleine poire. On a voilà. Alors le petit bémol qu'on pourrait mettre, mais c'est vraiment pour chipoter, c'est la cohabitation pas toujours très heureuse entre le background et les personnages qui sont un peu détachés du décor. Et c'est vrai que la différence de traitement peut gêner parfois, mais t'es tellement emballé par le scénario, finalement ça se remarque presque pas. De toute façon,
il y a une grosse allusion à Craig Freeman.
Ah oui, mais c'est que ça.
C'est
oui,
hallucinant.
Oui, oui, oui. Par contre, le dessinateur, il excelle vraiment dans les portraits, les personnages en gros plan. Là, il te fait des visages vraiment assez sympas et qui cartonnent, qui fonctionnent bien. Et même au niveau du dessin pur, il s'émerde pas mal, ouais. Donc c'est vraiment, si vous aimez l'univers des super-héros, si vous aimez les BD bien barrés, avec quand même un scénario bien costaud derrière, cette BD est faite pour vous. Freak Squeal, Tom 2, Les Chevaliers qui ne font plus ni, par Florent Maudou chez Ankama Édition. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de l'auteur.
En direct pour la Hero Academy, je reçois Florent Maudou. Bonjour.
Bonjour.
Ben justement, on va te demander de te présenter. Qu'est-ce que tu as fait avant Free Squeal? Quel était ton parcours?
Je me dirigeais vers les études mathématiques, j'ai failli faire prof de maths, donc je crois que j'ai bien fait de pas me diriger dedans, parce que je suis quand même plus à l'aise dans le dessin. Et je me suis dirigé vers le dessin animé, j'ai étudié le dessin animé au Gobelin, j'ai fait de l'animation 3D pour du jeu vidéo, et puis ensuite je me suis dirigé dans la figurine en plomb chez Rackham, et donc j'ai fait pas mal d'illustrations, du concept, et ensuite j'ai développé mon propre projet. Ma compagne m'a pas mal aidé, elle m'a aidé à structurer le projet pour que les personnages soient plus cohérents, et ensemble, et là j'ai sorti cette BD, quoi.
Alors tu t'es essayé justement avec Freak Squeal à la BD d'humour ultra référencée. Alors justement, comment ça se passe? Est-ce que tu fais une liste de références à placer, genre allez, Sailor Moon, The Blade, Star Wars, tout ça? Ou est-ce que ça vient en visualisant le scénario?
Alors ça vient plutôt au niveau du dessin, c'est-à-dire que j'écris mon scénario qui normalement ne fait pas de référence. Et même quand je fais des références scénaristiques, j'aime bien prendre les racines des références, c'est-à-dire par exemple dans le tome 2 il va y avoir une référence à l'homme de fer qui l'homme de fer du magicien d'Oz, Et on va revenir complètement dessus. Et forcément, vous allez voir tous les rapports qu'il y a avec les dérivés de l'homme de fer, c'est-à-dire Iron Man, le Alphonse de Full Metal Alchemist, Alphonse dans Pat Labor, tous les hommes de fer qui reviennent. Donc c'est une rêve, forcément, ça me revient dans l'esprit parce que c'est aussi ma culture. Mais j'essaie toujours de revenir au mythe fondateur. Les petites références plus légères du genre Dragon Ball ou les choses comme ça, ça me vient au niveau du dessin. J'aime. C'est des petites références qui sont des clins d'œil, qui sont des hommages, mais en aucun cas ça doit prendre le pas sur le scénario et l'histoire. L'humour doit venir des situations et pas juste d'une parodie qu'on ne pourrait pas saisir si on n'a pas les clés de ma culture à moi. C'est juste une référence pour dire voilà, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime. Terry Pratchett, si quelqu'un retrouve des références au disque monde, il va se dire ah oui aussi il aime bien ça, et ça crée une complicité avec l'auteur et le lecteur. Finalement c'est plus pour ça que pour juste en profiter et faire rire sur une parodie. J'essaie d'éviter la parodie.
Alors, Freak Squill est partagé entre des pages en noir et blanc et des pages en couleur. Alors, ces pages en couleur en plein milieu du bouquin, est-ce que c'est parce que tu ne pouvais pas te résoudre à faire un album 100% noir et blanc, tu trouvais qu'il manquait de la couleur ?
C'est un peu pour ça, c'est une espèce de bonus. Disons que le noir et blanc, j'apprécie énormément de travailler en noir et blanc parce que ça permet d'être très synthétique et de poser des belles lumières. L'avantage de la couleur, c'est que y a tout un langage qui se crée autour. Et puis même, c'est une habitude. C'est-à-dire que je suis coutumier du fait de lire des choses où vous avez une partie noir et blanc, une partie couleur, avec du papier différent des fois.
C'est comme dans les intros de manga, en fait.
Un petit peu comme les intros de manga, ou bien quand je lisais Pixo Magazine, qu'il y avait des pages couleur, des pages noir et blanc. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste une exploitation différente du même thème. On peut varier énormément de choses. Enfin, on est libre. On se donne des libertés.
Alors le concept de l'ange levage de Pareo, bon alors certes, ça fait un peu fan service, mais bon, le mal que je suis te remercie. Ceci dit, par contre, tu axes vachement ça sur la déco, on n'est pas du tout sur le côté corps dénudé et sexy. C'était une volonté de jouer avec le lecteur, de prendre un rebousse-poil, ou c'était t'avais pas envie de tout simplement d'aller sombrer dans le l'érotico soft.
Je pense que c'est plus. Oui, c'est un peu ce que tu dis pour l'érotico soft. C'est-à-dire que je voulais que ce soit sensuel, mais pas agressif. Ensuite, effectivement, le but c'était d'avoir l'air complètement fan service, et puis en fait de repartir complètement dans l'autre sens. Et au contraire, de proposer une petite réflexion sur la femme et l'homme dans notre société. Il y a aussi des clés de compréhension qu'on peut retrouver dans certaines pages avec. Alors, c'est peut-être un grand mot à la freudien, le phallus. Mais c'est ça, c'est l'homme phallus contre la femme finalement, c'est extrêmement drôle, et j'ai pas voulu prendre ça de façon sérieuse et un peu pompante. Je voulais que ce soit vraiment marrant et qu'on se dise bah c'est un peu ça dans la réalité, mais de façon un peu délirante, avec des effets spéciaux, des phallus géants, des femmes qui arrivent à manipuler le phallus de l'autre, enfin, voilà quoi. C'est vous verrez, relisez-le et essayez de comprendre avec d'autres outils, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais pas forcément exposées très clairement.
Alors juste une question pour les fans de Ghost in the Shell, le chasseur qui est manchot, donc c'est une référence à The Blade, le visage à moitié défoncé, c'est Godard. Le visage à moitié Godard de Second Gig.
Ah non, je le connais pas.
Bon ben d'accord, ça c'est pas une référence. Ok. Alors ça y est, tu as planté le décor. On connaît les élèves, on connaît les écoles, on connaît les types de partiels qu'ils vont devoir affronter. Tu penses décliner cet univers encore sur combien de tomes ?
Alors pour l'instant, on est parti sur 5. Si ça marche bien. Si ça marche bien, je veux dire, s'il se crée vraiment quelque chose avec les lecteurs, pourquoi pas plus ? Pourquoi pas 7, j'ai vraiment des idées pour aller jusqu'à 7, 8 tomes sans problème, quoi. Ensuite, je voudrais pas non plus tomber dans le dans la série sans fin où on finit par trouver des prétextes pour continuer. Je veux quand même que ça se termine. Mais j'ai des idées de développement pour certains personnages qui peuvent soit faire l'objet de spin-off, soit de tomes spécialement dédiés à tel personnage. Il y a vraiment pas de problème. J'ai vraiment des idées pour continuer.
Donc en fait, tu te places directement dans la tradition des, on va dire, les synthèse cool, des humours hein, de ce style-là, mais tu utilises aussi le côté vachement sympa de tout ce qui est super-héros comics, puisqu'on peut faire aussi des spin-offs à partir des personnages principaux. Florent Mondou, merci beaucoup.
Merci beaucoup, hein, et bonne continuation.
Voilà, donc c'était Florent Mondou interviewé lors de la Ankama Convention en décembre dernier.
J'étais obligé de l'interviewer dans son repère secret parce qu'une grotte, c'est pas super. Hein.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on aurait pu faire une ambiance de grotte.
Oui, on l'a fait sans le numérique cette fois-ci. Bon.
Voilà, donc c'était une affaire de locaux aussi qui était occupée par Ankama où il y avait pas vraiment, c'était pas vraiment pensé pour les interviews.
C'est impressionnant ces locaux. Donc,
C'est pas vraiment. Qu'est-ce que tu me fais dans le casque ? J'arrive pas à m'entendre. Putain, je m'enlève le casque, c'est pas possible.
Ça y est, j'ai coupé l'effet.
Oui, donc t'avais des sièges confortables, mais pour la sono, c'était pas top non plus. Bon, voilà.
Bon, ça valait le coup, quoi. C'était assez intéressant, je pense. Une bande dessinée donc.
Alors pour l'instant, deux tomes seulement sont sortis. Comme il le disait dans l'interview, il y en a cinq, ça c'est sûr. Et après, il verra si ça cartonne, il en fera un peu plus. Sachant que, bon voilà, il met à chaque fois plus de personnages, il dévoile un petit peu un semblant d'intrigue derrière. Donc tu sens que ça peut quand même durer quelques tomes encore. La BD Free School avait été lancée parallèlement en même temps que The Bazer, dont on avait déjà diffusé l'interview de Raph. Donc les deux sont un peu mis en parallèle par l'éditeur et c'est vraiment deux BD assez punchy, chacune dans leur genre. Non, c'est bien, c'est une bonne surprise en tout cas.
Midi et 21 minutes sur la poubelle des radios sur notre horloge atomique. C'est le supplément week-end, émission numéro 195. Et nous allons continuer les sorties bande dessinée avec Terre Lointaine, qui est une bande dessinée scénarisée par Léo. Léo n'est pas n'importe qui, on va en parler justement, et dessiné par Ricard. Terre Lointaine, donc le premier tome est sorti chez Dargaud. Léo est un dessinateur brésilien qui a fait Trent, qui est une bande dessinée sur le nord canadien, si je me souviens bien, je ne sais plus exactement. C'est un dessinateur qui a fui le Brésil suite au coup d'état militaire dans les années 70, qui ensuite est allé au Chili, où là aussi, suite au renversement d'Allende, a fui et est venu en Europe. Et il est très sensibilisé par le problème de la dégradation de notre écosystème, par ce qui se passe dans la forêt amazonienne, et que cela soit dans Kenya. Oui, c'est vrai que ça parle d'Afrique, mais c'est aussi sur notre planète, hors de notre planète, avec ces mondes d'Aldébaran. Les mondes d'Aldébaran, c'est déjà 3 cycles de 5 albums qu'il scénarise et qu'il dessine, chaque cycle décrivant une planète avec chacun une problématique propre, que ce soit la désertification, la rencontre d'autres espèces intelligentes. Léo arrive à non seulement éveiller sur les problèmes du développement de notre civilisation, que cela soit économique, mais aussi les dérives militaires, mais aussi sur ce qu'est devenu l'être humain. Terre Lointaine est une spin-off, une série dérivée de sa saga, avec des personnages totalement indépendants et d'autres mondes à découvrir, dessinés par Ricard. Car au milieu du 22e siècle, Terre se meurt, faute de ressources, de surexploitation, de pollution, mais aussi de dictature économique, religieuse et militaire. Les habitants sont donc contraints de fuir vers de nouveaux Eldorado, que sont les planètes extérieures, pour finalement retrouver les mêmes malheurs, plus ceux d'une nature extraterrestre qui se rebelle. Paul Claudel, qui a 18 ans, et vient tout juste de débarquer de Terre sur Altaïr 3 avec sa mère et sa sœur.
Tiens, Altaïr 3.
Là où leur père les a précédés plusieurs années auparavant et leur a payé leur billet de navette. Mais à l'arrivée, personne. Et la famille débarquée avec presque rien doit vite trouver un moyen de subsistance dans une ville qui ressemble plus à un Far West qu'à la Terre promise. Paul fait la connaissance d'un Stepanerk, un étrange extraterrestre, un crustacé à l'échelle humaine, d'une force colossale, d'une intelligence et d'un instinct incroyable, et qui va l'aider à retrouver trace de son père, qui serait loin parti parmi les pêcheurs de perles. Les pères d'Altaïr sont très connus pour leur goût extatique. Ils se font tous les deux embaucher pour une expédition qui devrait rapprocher Paul de son père, mais aussi lui faire découvrir Altaïr 3, sa flore et sa faune, ses véritables richesses. Icar, le dessinateur, n'est pas inconnu de nos services. Il a agi sous un autre pseudo, Francard, avec lequel il a créé Japster, ça c'était en 92 chez Dargaud, qui était une série jeunesse, avant d'être enrôlé par Froideval pour réaliser la série Fatum, qui est une série, là aussi je vais dire, jeunesse-ado, autour, je vais dire, de la mafia dans une série soi-disant cyberpunk. Bon, c'est plutôt rigolo. Puis ensuite Anamorphose, toujours du même scénariste, Froideval, Feu-me-feu, qui était l'ancien rédacteur en chef de Casus Belli et un portateur de Donjons et Dragons en France. Dans une interview de Léo pour Actua BD, le scénariste confie que Francard se lasse justement depuis longtemps des productions de Feu-me-feu, alors qu'il admire les séries de Léo et qu'il souhaitait dessiner. Et donc, Léo lui a confié ce scénario. Léo a toujours eu un dessin hyper réaliste et vraiment extrêmement précis, ce qui rend d'autant plus crédible l'univers art science qu'il a créé. Icar a un scénariste moins précis, mais justement un peu plus dynamique, plus vif, ce qui finalement fait mieux vivre, je veux dire, cette série. Léo au scénario, Icar au dessin, Terre lointaine, le premier tome donc est sorti chez Dargaud. Continue dans un tout autre registre avec un classique de la littérature, puisqu'il s'agit de La Métamorphose, la nouvelle de Franz Kafka, qui a été adaptée par Corbeyran et dessinée par Horn, qui sont tous les deux donc en ce moment au festival Bulle d'Ombre, dont on a parlé tout à l'heure en introduction de cette émission. C'est dans la collection Ex Libris chez Delcourt. C'est vrai que Franz Kafka, on connaît pour son célèbre procès qui ensuite a fait rentrer son nom comme adjectif quand on parle de quelque chose de kafkaïen, quand on parle d'un gouvernement kafkaïen comme Sarkozy ou d'une loi kafkaïenne comme celle de la Dopi. Bref, vous m'avez compris. Le procès a d'ailleurs été adapté, même en comédie musicale d'ailleurs, en ce moment à Toulouse au théâtre. Ou repris par d'autres écrivains, comme le cas de Dino Buzzati. Franz Kafka a aussi écrit une nouvelle, La Métamorphose, qui, elle aussi, était restée célèbre, pardon, du...
Ouais, non, mais j'allais dire, justement, faut pas passer sous silence le fait qu'il a également écrit La Métamorphose, qui est une...
Mais c'est l'adaptation avec de la BD.
Avec le procès, c'est sa nouvelle la plus connue. Il y a également La Colonie pénitentiaire, qui est...
Et qui a aussi été adaptée dans la même collection, j'allais y venir.
Qui est très très bien.
tu devrais lire mon prompteur, des fois, même si je l'ai rédigé 30 minutes avant le direct, tu devrais.
non, mais je parle de référence.
Bref, Franz Kafka a une œuvre qui est très sombre, surtout que faut quand même rappeler que La Métamorphose est sortie en 1915, c'est pas n'importe quand. C'est le moment où on voit que la Grande Guerre va s'enliser dans une guerre des tranchées, dans tout ce qu'elle a de plus horrible. Et La Métamorphose est à la fois très sombre et matinée pour l'époque d'audacieuses références sexuelles, même si elles sont plutôt minimes dans le texte original, derrière la monstruosité. Grégor est un jeune représentant de commerce, il a la vingtaine. Ses parents ont fait faillite avec leur magasin de textile et doivent une importante somme à leur fournisseur. Ne pouvant plus travailler à cause de leur âge, ni la sœur de Grégor parce qu'elle est beaucoup trop jeune, le fils s'est donc retrouvé à travailler pour le fournisseur en question, pour faire vivre toute sa famille. A galopé à travers le pays, de ville en ville, pour tenter de vendre la marchandise, les tissus... Mais un matin, alors qu'il est dans l'appartement familial, il se réveille en une monstrueuse vermine peu ragoûtante. Ça, c'est le texte originel. Un cafard géant. On ne donnera aucune explication, puisqu'il n'y en a pas dans l'histoire. Il est juste, en fait, un cafard grand, gros, suintant, assez lourd et malhabile, puisqu'il ne connaît pas encore, son corps. Impossible bien sûr pour lui de reprendre le travail, une famille qui le cloître, sachant s'il faut le rejeter ou l'accepter, mais il se trouve aussi sans moyen, sans aucun moyen de subsistance. Le seul soutien se retrouve en reclus, doublement enfermé dans sa chambre, sa nouvelle forme chitineuse. Alors que la situation de Grégoire devient de plus en plus animale, ne parlant presque plus aux autres protagonistes, sinon qu'aux lecteurs par le texte narratif de son journal, les mentalités de sa sœur, de son père et de sa mère vont évoluer. Horn utilise justement les cadrages, donnant les perspectives d'un insecte dans une boîte qui monte sur les murs, au plafond, qui se réfugie sous les meubles. Alors je vous laisse découvrir justement cette adaptation. Ex Libris est une collection qui est dirigée par Jean-David Morvan, mais qui fait le pari d'adapter en bande dessinée quelques classiques de la littérature, si possible en one-shot. Cet album retranscrit très bien l'esprit noir de Kafka, même si de très nombreux raccourcis sont faits pour faire tenir la nouvelle en un album, et que bien évidemment l'impact du texte allemand originel a été perdu, déjà dans les traductions, puisque Kafka joue énormément sur les mots et sur la construction grammaticale. Mais ça reste, je veux dire, une très 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 bonne introduction à cette histoire. La Métamorphose, adaptée par Corbeyran et dessinée par Horn d'après la nouvelle de Franz Kafka, c'est dans la collection Ex Libris chez Delcourt, Corbeyran et Horn, que Horn est en dédicace donc tout à l'heure pour le festival Bulle d'ombre qui a lié à la salle rue Xavier Darras, la salle des fêtes de l'Imérac à Toulouse.
Dans la collection Ex Libris, là, je voyais quelques BD qui font envie. À chaque fois, ce sont des auteurs différents.
Oui, tout à fait.
Et t'en as lu quelques-unes ? Est-ce qu'il y en a qui tiennent la route ?
Ben moi j'en étais resté à une très mauvaise adaptation en bande dessinée, celle de qui n'est pas dans cette collection justement, qui soi-disant a donné l'impulsion à cause de son succès. C'était l'œuvre de ah oh putain et chronique mémoire des temps perdus. Je ne sais plus. Attends, je me souviens plus du nom là de l'œuvre de
l'écrivain français.
Oui, français. Il a eu le Goncourt en 1902. Ça, je m'en souviens. Il est connu pour ses tirades de 14 km
Proust.
De long. Proust, voilà, Emmanuel Proust. À la recherche du temps perdu, voilà, qui a été adapté.
Pas Emmanuel.
Marcel. Emmanuel, c'est l'éditeur de BD. Oui. qui a été adapté chez Delcourt dans une bande dessinée qui se voulait ligne claire, mais finalement n'a pas vu. Il y en a qui trouvaient que c'était génial. Moi, j'avais détesté. Et comme il y avait cette collection Ex Libris qui se montait, je me suis dit bon, ils essaient d'adapter, etc. Je voulais voir ce que ça donne. Surtout en n'ayant pas lu La Métamorphose à l'origine. Ah. Et ça m'a donné
tout
envie.
S'explique.
Ça m'a donné envie justement de comparer par rapport au texte. Le dessin est très noir, justement il s'intègre bien dans l'histoire.
Mais franchement, j'ai commencé à parcourir la BD tout à l'heure, je me suis dit, et finalement, ça fait pendant toute la chronique que je l'ai feuilleté, finalement ça donne envie.
Faut pas oublier que Franz Kafka a été l'instigateur justement de tout le mouvement moderniste allemand des années 20, par ses nouvelles, par ses histoires. Et là, graphiquement, il s'en rapproche. Et c'est justement là où c'est plutôt bien amené. Quand on pense au cabinet du docteur Calgary et tout ça, on y retrouve quand même une certaine filiation dans le dessin de Horn. Je sais pas si c'est volontaire.
Oui, mais après, tu as aussi le thème de la mutation, la métamorphose aussi, qui a inspiré des gens comme Lynch ou Cronenberg pour les plus récents. Aussi.
Que là, c'est une métamorphose qui a eu lieu d'un coup, Lynch, c'est quelque chose qui se passe.
Parce que là, il prend le premier texte de la BD. En fait, c'est vraiment la première phrase du bouquin. C'est un matin, émergeant d'un rêve agité, Grégoire s'éveilla dans son lit, transformé en énorme cafard. C'est-à-dire, le postulat est fait.
Dans le texte allemand original, c'est dans une effroyable et gigantesque vermine. C'est-à-dire, on n'utilise même pas le terme cafard, on parle bien de vermine.
D'accord. En tout cas, moi, je te parlais de la collection Ex Libris parce que je vois qu'il y a des adaptations de Dorian Gray, de Frankenstein, qui donnent vachement envie.
Tom Sawyer, tout le monde connaît Tom Sawyer, par exemple, par le dessin animé, bien évidemment. Mais on ne connaît. Mais si vous avez lu l'histoire originelle, en fait, qui était une collection de nouvelles pour des journaux, c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus sombre. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant. C'est une bonne introduction finalement, mais c'est une bonne introduction justement à la littérature comparée. Pour, s'il y a des profs qui nous écoutent, je pense que de ce côté-là, ça peut être intéressant pour des parents qui veulent faire découvrir aux jeunes la bande dessinée. Quoi qu'on sait maintenant, justement par l'étude Ipsos qui a été faite pour les universités d'été de la bande dessinée, on sait très bien que ceux qui lisent de la BD lisent déjà énormément à raconter.
Oui.
Mais c'est pas du Reader Digest. Justement, c'est une appropriation de l'œuvre qui, d'un autre côté, le repasse justement dans un certain contexte. En cela, c'est justement intéressant. Donc voilà, c'était La Métamorphose Horn et Corbeyran, d'après Franz Kafka, c'est dans la collection Ex Libris chez Delcourt. Après, je crois que du sport, il a du comics. Dis-moi oui.
Oui, oui.
Bon, alors tu les sors ces comics ?
Oui, mais comme ça, là, au déboté.
Ah oui !
Sans respiration, là. Allez.
Sans respiration. Allez, non, tu non, le allez. Peux.
Je retiens mon souffle.
Merci, parce que là, je suis en train en même temps de changer. Donc, est-ce que tu peux me les sortir, ces comics, bordel de Dieu ?
Allez, ouais. Alors, c'est la livraison d'avril. de la collection Marvel avec Spider-Man et Marvel Heroes et quelque chose a changé.
Thomas a trouvé quelque chose à propos de Spider-Man.
Oui, c'est un traumatisme de Peter Parker où on voit qu'il subit.
On retrouve bien Stan Lee d'ailleurs dans le mode de pensée. Hein.
Oui, il suit d'un gars qui veut absolument coucher avec lui. Et c'est une BD, je crois, qui est sortie qu'en Espagne, hein, c'est ça ?
Apparemment non. Hein. Je crois que c'est une BD dans le cycle normal de Spider-Man. Donc je pense que ça m'étonnerait pas de la part de Stan Lee que justement ce thème sur la pédophilie, puisque c'est plus loin que ça.
Oui, mais je crois qu'il est jamais sorti en France, d'après ce que j'ai vu dans le billet.
Je n'en sais rien là-dessus. Peut-être justement que des spécialistes du comics comme François Penaud ou Jean. Bon voilà, peuvent nous renseigner là-dessus. François, si tu nous écoutes, puisque tu es sur Toulouse, on ne sait jamais. On aurait dû lui poser la question.
Ok, alors j'en reviens donc à ma livraison mensuelle de Marvel avec les deux titres Spider-Man et Marvel Heroes. La différence avec le mois de mars, c'est que on y a ajouté ce petit logo.
70 ans.
Voilà.
Marvel Comics.
Voilà, c'est les 70 ans. Hein. On en avait parlé à l'occasion de la sortie du dernier Comic Box et du hors-série Watchmen. Ça y est, c'est lancé. Et à cette occasion-là, bon, bah, gros événement, bien entendu. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents numéros, surtout des puissants vengeurs. Où eh ben il apparaissait qu'il y avait des Skrulls qui menaçaient à nouveau d'envahir la Terre. Hein. On avait fait plus ou moins tout un topo sur qui étaient les Skrulls, d'où ils venaient, hein. Ces espèces d'aliens métamorphes, c'est-à-dire qui ont la possibilité de se transformer en n'importe qui, de prendre l'identité de n'importe qui. Et c'est bien commencé. Alors bon, ben non, Spider-Man, c'était encore très très light, mais ça apparaît. Notons quand même que pour l'instant, ben c'est quand même d'un très haut niveau, hein, ce qui se passe dans Spider-Man sous la plume de Mark Guggenheim, excellent. Ça vaut vraiment le coup avec le double épisode, surtout avec le double épisode de Kraven, de la fille de Kraven. Alors Kraven, c'est un très très vieux super vilain dans la cosmogonie de Spider-Man.
Oui,
hein.
Ça fait
c'est un des premiers gros super vilains avec Octopus, Bouffon Vert et tout ça. C'est un des grands super vilains donc dans les années 70. Et là, c'est la fille qui revient pour se manger. Mais la donne a complètement changé. Alors, petit récapitulatif, la donne a changé en ce qui concerne Spider-Man. C'est-à-dire que, bon, quand on a eu l'arc vachement long, inspiré par J.M. Straczynski, qui a quand même tenu à bout de bras et qui a relancé la licence Spider-Man et qui l'a fait remonter au top des ventes, quoi, en ce qui concerne les mensuels Marvel, loin devant les X-Men, alors qu'apparemment c'était quand même les X-Men qui tenaient un petit peu le haut du pavé, parce qu'il y avait les films qui étaient sortis et tout. Mais là, Spider-Man, depuis l'an 2000 jusqu'en moitié de l'an 2005, Straczynski qui a quand même tenu 5 ans hein, à l'écriture de Spider-Man, quoi, donc ça va, c'est un run qui est hyper long, hein, pour même chez les classiques, ça durait pas aussi longtemps, hein. On sait que chez Marvel, on a l'habitude de dégager une fois que bon, bah, si ça convient plus, s'il y a un désaccord et tout, de toute façon, c'est le grand patron qui dit bon, tu dégages, casse-toi, si t'es pas content, c'est la même chose.
Les chiffres de vente sont pas bons. Au revoir.
Là, Straczynski s'était barré pour autre chose, pour faire autre chose, parce que bon, il a un petit peu ras la cacahuète. D'ailleurs, il est de retour, hein, bien entendu, dans la scénarisation de Thor, avec Coipel au dessin. D'ailleurs, c'est le retour de Coipel et de Straczynski dans le nouveau numéro de Marvel Heroes. Mais concernant Spider-Man, donc on a mis un petit peu les choses à plat. Alors actuellement la situation de Peter Parker, il s'est fait virer du Daily Bugle parce que bon bah après son histoire de shoot de paparazzi, il devait épier un acteur et essayer de le photographier dans des situations compromettantes. Ça a pas tellement plu au patron, au nouveau patron, hein, qui a racheté le magazine à Jonah Jameson, qui a été victime d'une crise cardiaque. Donc Spider-Man, il déménage et il emménage donc en colocation avec un certain Vin Gonzalez.
Ah oui, qui est flic.
Qui est flic en fait, qui est flic et qui plus ou moins s'occupe de ce tueur au traceur qui laisse des indices qui font croire que c'est Spider-Man qui est le tueur. Donc Spider-Man est un petit peu poursuivi par les flics. Donc il cherche du boulot et il trouve du boulot dans un magasin de comics. Alors ça, c'est assez rigolo parce que il est photographe dans la vie réelle et il ne connaît rien aux comics. C'est pas du tout son monde et tout. Il est quand on le voit. Quand on le voit comme ça dans sa vie de tous les jours, bon bah il lit jamais de comics, que dalle, il y connaît rien. Alors donc
c'est un geek mais pas trop en fait.
Non, pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Alors donc il se fait
si, parce que Peter Parker c'est quand même un geek au départ, c'est le gars qui est toujours plongé dans ses bouquins.
Non mais même pas là, il vit sa vie puis bon comme c'est un petit peu rush quoi parce qu'il a il a plus de boulot et tout, il faut quand même qu'il paye son loyer. Alors il a des problèmes existentiels moraux pour savoir comment il va annoncer à son coloc qu'il a plus de boulot. Alors il lui cache et tout, et c'est le Vin Gonzalez qui est obligé, après l'avoir appris, de lui dire « Ouais, t'aurais pu me le dire, c'est pas sympa et tout, tagada, enfin bon, tu as des problèmes de coloc tout simple, tout con, tout débile. » Et il y a quand même des petites répliques qui sont pas piquées des hannetons. Alors par exemple, le type qui lui dit dans le magasin, son collègue de travail dans le magasin de comics, qui lui dit « Ah ouais, tu devrais lire les X-Men par machin et par truc bidule et tout, quoi. » Et puis Spider-Man, Peter Parker qui répond « Ouais, X-Men, je m'entends pas trop avec. » Des petites vannes comme ça, bien poussées. Enfin bon, c'est vraiment de très très bon niveau. Et bon, ce qui va se passer, c'est que il y a même, au début de la chasse, du retour de la fille de Kraven, il y a même une petite aventure conjointe avec Daredevil. Alors bon, alors bien sûr, ça commence les petits dialogues pendant qu'ils poursuivent le vilain, genre tu peux m'appeler Dédé maintenant, je t'appelle Dédé maintenant, ah bah oui, mais appelle-moi Speedy, enfin bon.
Ah ouais, ça vient dans les yaoi là.
Ça délire
oui,
pas mal.
Oui, touche-moi mon cosmos anal.
Ça délire pas mal. Mais bon, là où c'est intéressant, c'est que bon bah il y a une espèce de ils arrivent bien à mélanger un petit peu, mais tout en restant crédible dans l'histoire. Et l'histoire est assez sombre quand même, hein, parce que ce qui se passe, c'est que bon la fille de Kraven arrive à repérer l'endroit où Peter Parker habite, et à savoir que Spider-Man et Peter Parker, bien entendu. Donc va l'espionner et tout, va même piquer son costume, mais par contre va kidnapper le mauvais mec, enfin du moins au début on croit que c'est le mauvais mec, puisqu'elle va kidnapper le coloc de Peter Parker et elle va l'habiller de l'habit de Spider-Man et tout, alors suspendu par les pieds et tout, enfin bon un petit peu torturé, tu vois, pas trop mais enfin un peu sanglant, ouais,
quand
même.
Il est dérouillé, quoi.
Alors il dérouille un petit peu quand même pas mal. Alors au départ on se demande bon elle s'est plantée et tout, mais non, en fait elle veut d'abord se venger en attaquant tous les proches de Peter Parker. Donc ça peut devenir pas mal, assez intéressant quoi. Mais sinon c'est très haut niveau. Moi j'aime bien le dessin aussi quoi. C'est magnifique. Et après dans le Spider-Man bien sûr les Thunderbolts. Hein, alors là c'est pareil quoi. Ça commence à péter à fond les manettes avec l'apparition de Skrulls. Les Skrulls, il y en a à fond, mais vraiment à fond les manettes dans le Marvel Heroes, que ce soit dans les Puissants Vengeurs. On avait déjà eu un échantillon avec la fausse Elektra qui était en fait une vraie Skrull. Et là, on va s'attaquer vraiment à l'histoire de Henry Pym qui est un des fondateurs, un des membres originaux des Vengeurs. qui est également le mec qui a fabriqué Ultron, et qui est le directeur de l'initiative, hein, c'est-à-dire de la série dérivée Les Vengeurs l'initiative, c'est-à-dire la formation des Vengeurs qui doivent justement être en poste dans chacun des 50 États des États-Unis pour essayer de capturer les super-vilains qui ne se sont pas fait recenser après la Civil War. Hein, j'espère que vous me suivez toujours.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et là, bah, il s'avère que ça commence à être très très mélangé, parce que dans le numéro précédent, le numéro de mars, bah, on savait qu'il y avait quand même déjà pas mal de Skrulls qui étaient infiltrés, dont par exemple le majordome de Henry Pym, d'autres personnages mais un petit peu plus secondaires. Mais là, ben, il s'avère que ben, on ne sait plus qui est vraiment celui qui prétend être.
Skrull
ou pas Skrull, parce que tu vois, même au lit, ça dépote un petit peu, quoi, tu vois, ouais. Quoi, ça se change en vert et tout, quoi, tu vois. Donc on se demande, quoi. Et là, bon, ben, ça devient vraiment assez intéressant. Dans le Thor, il y a deux parties. Il y a le Thor avec la battle entre Thor et le Hulk rouge. Le Hulk rouge, on lui envoie tout le monde et bon, bah, il les dégomme tous, quoi. Alors bon, ça commence à devenir un petit peu lassant. On commence à se dire, mais bon, bah, qui c'est qui va arriver à le dégommer et tout, quoi. Mais comme à la fin de cet épisode, bon, Thor, il croit que bon, il est invulnérable, il croit que personne ne peut toucher son marteau, et le Hulk rouge, il est là et tout, c'est ça, t'as qu'à croire et tout, boum et tout, que je t'envoie sur la lune, vraiment, ça dépote grave, assez sec et tout. Mais par contre, on nous promet que le prochain numéro en mai, eh bien, ce sera la conclusion de cette fameuse histoire avec ce Hulk rouge, et qui arrivera à vaincre ce foutu Hulk rouge, on se le demande. Et ensuite, on a la suite. Enfin, ça faisait au moins 3 mois, hein, qu'il s'était arrêté, hein, le tandem Straczynski dont je parlais tout au début avec Olivier Coipel. C'est le retour, donc toujours dans ce Asgard qu'ils ont posé en plein milieu du Texas, tranquille, je crois que c'est le Texas ou alors le Kansas, enfin en plein milieu dans le désert comme ça. Et bon, ils continuent à lier des liens un petit peu spéciaux avec les habitants du Kree, mais également avec un Loki qui prend une part prépondérante dans cet épisode et qui commence à intriguer du côté de la garde rapprochée de Thor. Donc tout ça dans le numéro avril de Marvel Heroes, à l'occasion, bah, surtout de ce 70e anniversaire des Marvel Comics.
Interruption musicale, mais ceci dit, bonjour à JB qui vient de nous rejoindre.
Salut JB.
Bonjour.
Bonjour. Il est bouche bée, quoi. Il en peut plus, là.
Ouais, je vous raconterai après.
D'accord, bon, ok. Interruption musicale, Claire and the Reasons, qui était hier en concert au Théâtre de Garonne. Non, mais fais pas oui, on t'a pas vu.
Ben non. We'll be right back.
évidemment, c'était Clear the Reasons, la chanson, c'est évidemment Merci. Everybody Wants to Rule the World, reprise de Tears dans leur dernier album qui s'appelle The Movie.
Oui, on sait du sport, tu l'as passé la semaine dernière.
Non. Je voulais rajouter. Je voulais juste rajouter. Ça marche, ouais.
Oui, pardon.
Non, je voulais juste rajouter que c'était un album Claire and the Reasons, c'est fait par un fils d'eux et une fille d'eux. Claire, c'est Claire Muldaur, la fille de Maria Muldaur, et il y a également Sufjan Stevens dedans, qui est le fils de Cat Stevens, donc deux icônes des années 60.
D'accord.
Ouais, et puis si j'étais en concert en France, c'est pas un secret, c'est parce qu'elle sort avec un Français. Voilà, c'est assez sympa le quatuor à cordes. Thomas, dis-moi, où en est l'espoir de la France? Je rappelle que la France a le meilleur service de renseignement à l'après-guerre, que même les Anglais et les Américains nous envient.
Et oui, avec notre fleuron Hubert Bonisseur de la Batte.
Oh oui.
Oh oui, qui l'a vu?
Pas encore, mais j'en crève
d'envie. Bon, d'accord, bon, je vois que vous en crevez tous d'envie. Alors, OSS 117, Rio ne répond plus, de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Louise Monod et Pierre Belmar.
Magnifique.
Oui, très bien le film.
Putain.
C'est lui qui l'envoie en mission en fait, voilà.
Aïe aïe aïe, ah ouais. Ah là ça donne envie.
Alors un ancien officier nazi réfugié au Brésil fait du chantage à l'État français, il réclame 50 000 nouveaux francs.
Ouais, c'est mieux que demander 2 milliards de dollars.
Contre un microfilm contenant la liste des collaborateurs durant l'occupation allemande. Pour la récupérer, les services secrets tricolores envoient leur meilleur agent, donc Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. Il va devoir faire équipe avec Dolores, lieutenant-colonel du Mossad. La mission ne va pas être forcément, évidemment, de tout repos pour Dolores, car elle doit se continuer un agent misogyne, brutal, abruti fini, raciste, et se permettant même des raccourcis géopolitiques plutôt indélicats. Il confond juste les juifs et les musulmans. Bon, voilà. Qui dit, bon là, c'est quoi votre problème avec les saucisses? voilà. Alors, bon, il y a quelques dialogues sympas, mais c'est énorme. À un moment donné, elle lui dit, parce qu'ils sont au Brésil, alors il dit, oui, c'est n'importe quoi. Comment on peut vivre dans une saleté pareille et tout? Oui, mais je voudrais bien vous y voir vivre dans une dictature. Vous savez ce que c'est une dictature, au moins? Non, ce n'est pas une dictature. Une dictature, c'est communiste, il fait froid et les gens ont des potes en fermeture éclair.
Il n'y a pas que ça. Il dit c'est y a un parti unique, le président est un militaire, il n'y a qu'une chaîne de télévision.
Non, ça c'est la nana. Comment vous appelez donc un régime avec tout ça? Il n'y a qu'une seule télévision, tout ça, elle fait l'énumération. Ah ah, mais ça j'appelle ça la France du général de Gaulle.
C'est très bien vu. Enfin, encore une fois, les textes ont l'air d'être ciselés, mais aux petits oignons.
Ah,
quoi.
Mais c'est ça en fait qui fait l'atout et un petit peu le défaut du film, c'est que les dialogues sont nickel, mais parfaits, joués, mais à merveille. Tu ris, mais aux larmes. Hein, c'est aux larmes que tu. Il n'y a pas une réplique qui soit jetée. C'est réglé au millimètre. Sauf que t'as l'impression que le scénario est construit pour mettre en valeur les répliques. Ils ont foutu les répliques et puis merde, il faut faire un scénario autour. Donc. Voilà, donc c'est un peu pour ça peut-être que la deuxième vision, faut voir si le film supporte le multivisionnage. Mais là, mais les baffes verbales que tu te prends avec les énormités qui te sortent avec l'ami de Dujardin, mais vraiment, tu sais, on dirait un gamin dans un corps de 35 ans. Tu vois, c'est le mec, il croit vraiment à ce qu'il dit et c'est le mec, voilà, il est lâché là-dedans, il connaît rien à rien. Il fait que des blagues racistes sur les Shintok, les faces de riz. Après, il y a les juifs qui s'en prennent plein la figure. À un moment donné,
déjà vu ce que ça donnait comme spécialiste du Moyen-Orient, j'ose à peine imaginer.
Ah oui, non, mais là, c'est pire, c'est deux fois pire que le premier. C'est à un moment donné, pour négocier avec un gars qui tient en otage, bah, c'est un nazi qui fait chier. Il dit non, mais ce serait bien si les nazis. Réconciliation avec les juifs, ils avaient un pays à eux, bah comme Israël quoi. C'est que des trucs comme ça. Alors t'as la salle, t'as à la fois mémoire de rire et puis t'as la salle qui fait oh. Mais pendant tout le film, c'est entre les oh et les rires, mais les rires aux éclats. C'est des fois tu dis non, c'est pas vrai. Bon, voilà, bon, le film après, mais le film il fait pas que rire, ça reprend en fait l'humour du premier, si vous l'avez vu, c'est la parodie, mais fine en fait, c'est pas la parodie à l'américaine, à la même Austin Power, complètement décalé à fond.
Ouais, parce que même les moments où il parodie les Gérard Houry, quand il est dans son entreprise à allumer, éteindre,
oui, voilà.
Avec le poulailler où tu te dis, c'est pile poil ce qu'aurait fait de Funès, oui. Même là, c'est bien amené.
Oui, mais en plus, quand il te dit ça, il est naturel. Bon, je vous laisse, j'ai du travail avant d'aller en mission, et puis il va aller passer sa nuit à allumer, éteindre la lumière. Et là, en fait, dans ce deuxième film, c'est les années 70 qui sont auxquelles il y a des clins d'œil. Donc, il y a le split screen, il y a forcément les couleurs des années 70. Donc, du jardin, il porte des costards rayés à carreaux pendant tout le film. T'as la musique, mais le split screen vraiment poussé à l'extrême. C'est plein de petits carrés à un moment donné. Ah, oula, attendez, j'arrive pas à voir ce qu'il y a dans les cases. Mais en plus, tu sens que l'équipe Zanavisus en tête, ils prennent un malin plaisir à jouer avec les codes. Tiens, par exemple, il y a un coup de fil, ils doivent tous passer un coup de fil les uns après les autres. Donc il y a à peu près 10 coups de fil dans une minute. Donc là, l'écran s'est splitté à mort avec que des coups de fil de partout. Et puis il y a tout le monde qui raccroche en même temps. Tu vois que ça sert pas vraiment à grand chose, mais tu sens que le mec il joue avec ça. Et c'est finement amené, c'est dans l'histoire, c'est coulé. Mais en plus, ce qu'il y a de bien dans le film aussi, c'est que tu ne passes pas ton temps qu'à rire. T'as certaines scènes qui sont vraiment très très bien. T'as une scène à un moment donné qui se déroule au pied de chute d'eau, et t'as le bruit des chutes d'eau qui couvre la musique. Et tu t'as au passé une minute, tu te rends compte que la musique elle est toujours derrière, et elle est complètement abrutie par le bruit des chutes d'eau. Mais ils ont pas fait un fade. T'as toujours la musique derrière. T'entends pas ce que disent les personnages parce que c'est le parti pris de la scène. Et t'as certaines scènes vraiment qui fonctionnent super bien. La deuxième partie du film, c'est un hommage mais complet à Hitchcock avec Vertigo, puisqu'il y a les fameux flashbacks qu'il y avait dans le 1, ils reprennent aussi le principe pour dévoiler un petit peu de l'histoire de Hubert de la Batte. Bon voilà, t'as les références à Hitchcock, t'as les métaphores sexuelles à Hitchcock quand il dit bon voilà, j'aimerais bien sortir avec toi, et puis qu'après t'as le train qui passe sous le tunnel. Bon, ça c'est vraiment du Hitchcock à 150%. Bon voilà, moi franchement, j'ai vu hier soir, je suis encore dans la claque, mais si tu pleures quoi, c'est énorme. Je vous le recommande chaudement, hein, bien sûr. Hein, donc, OSS 117, Rio ne répond plus, de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Louise Monod et Pierre Belmar, avec des jolies pépettes, des gunfights complètement décalés. Tu te dis, mais c'est quoi ? Voilà, c'est des festivals de grands moments, en tout cas.
On n'a pas parlé, il y a 15 jours, pour la spéciale manga, de la sortie de Ponyo. Et pour cause, puisqu'on l'avait fait au retour d'Angoulême, où on l'avait vu en avant-première.
Non, on avait annoncé qu'on l'avait vu en avant-première, mais nous n'en avions pas parlé. Pogno, on y va. Moi, j'y vais demain. Donc on en parlera dans 15 jours, puisqu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. On sera l'occasion de faire venir Sabrina, notre spécialiste S. Miyazakien, qui viendra nous en parler.
Yes. Là, en attendant un petit peu de zen. North Star Fluttering the Arazada, Full Shosho, bande originale de Ghost Dog.
Devils won't let them learn right from wrong. You need to wake up, get up, and get it straight. If you don't do it now, it might be too late.
What's up, nigga? Let's go steal a coup and practice kung fu on the roof next to the pigeon coop and keep it stacked like the big boy Cadillac. 48 tracks and got my voice on the dat. Samurai style for them niggas acting wild and them jealous motherfuckers throwing booze in my crowd. Steve Ripper feeling proud. Woo made it loud. Now them nine can relax. Killer arm, throw swords on tracks. Unite my kingdom. Family roar. You on Brooklyn Zoo saw you as the Sons of Man jam. Law be the black man. 97 band. Palm in your fans. Niggas own this land.
Strange eyes keep on watching me. I see those strange eyes keep on watching me. Strange eyes keep on watching me. My niggas, if you're uptight, time to get this money right, right, right. We running million-dollar scams with this bird in our hand.
I'm never lonely in the battlefield. The apple they kill, official Blessville. From Best Eye, East New York, the face of Brownsville. This sound is real. I just stand revealed. A pill of 7 mil, addicted to dope, coke, and grills. On the street corners, they sleep on us. We keep burners. See them lame guys with strange eyes? It don't concern us. Bloods and Crips, automatic slugs to whip. We quick to drop shit. Now we own some music and shit. Living this ghetto dream, settle mellow out with cream. My thousand man team, Samurai King, keeping our thoughts clean. Keeping our thoughts clean. Turn off your high beams.
Strange eyes keep on watching me. Watching me, I see them strange eyes keep on watching me. I see them strange eyes keep on watching me. Strange eyes keep on watching me. Strange eyes.
Star featuring the RZA dans la bande originale de Ghost Dog for show. Et du sport, lui, il revient dans les transformations monstrueuses.
Ouais, avec Monstre contre Alien actuellement à l'affiche, un petit peu partout. Alors ça te fait rigoler, tu l'as vu toi ?
Non, non, j'ai pas vu. Non, pas encore. Non, parce que vous parlez de Monstre juste avant, t'as chroniqué la métamorphose de Kafka, donc effectivement, bon, bref.
Ah, il est en dédicace au auteur, il nous écoute peut-être, alors chut.
Alors chut.
Il y a de bonnes critiques au sujet de ce bouquin.
Oui, je sais, j'en viens d'en faire une.
Oui, mais je l'étais pas là, hein. Je oui. pouvais pas
les
savoir.
Baladeurs FM, ça existe. Bon,
ça s'appelle le boulot.
Excuse-nous, Duce. Hein.
Non, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est un des classiques qui, normalement, tout être normalement constitué, doit avoir lu la métamorphose, la nouvelle de Kafka. Hein. Ça, c'est, ça me paraît clair. Hein. Ça fait partie du background de base. Monstre contre Alien, donc qui n'a rien à voir avec donc un film de Ron Letterman et Conrad Vernon qui nous avait déjà fait Le Gang de requins en 2004, enfin surtout pour Rob Letterman et qui prépare hein, les voyages de Gulliver. Ça peut être intéressant. Conrad Vernon, lui, il est plus connu comme acteur en fait, hein, puisque bon ben il a fait la voix dans Shrek 2 et 3. Le bonhomme Panépis dans Souris City également, dans Madagascar il fait la voix de Mason, mais c'est le réalisateur de Madagascar 2 quand Ad Vernon donc, et les deux s'y mettent pour nous créer ce monstre contre alien. Alors l'histoire, elle est relativement simple. Hein. C'est l'histoire d'une nana qui est métamorphosée, qui devient hyper grande. Hein. L'allusion à la femme de 50 pieds est tout à fait évidente. De toute façon, c'est une météorite qui arrive sur la Terre, en Californie, à Modesto. Et cette météorite est convoitée par un méchant alien qui ressemble à un encornet géant. D'ailleurs, à un moment, ils le disent dans le... Enfin, un encornet, pas géant, mais enfin un petit peu surdimensionné, on va dire, hein, et qui veut récupérer la matière de cette météorite pour justement pouvoir fabriquer des clones et envahir tout l'univers. Bon, c'est tout simple. Alors, il y a plein de références, il y a plein de gags et tout. Bon, bah, c'est la femme de 50 pieds qui, bien sûr, va débloquer la situation et qui va sauver la Terre de cette invasion d'aliens, aidée par cela, par eh bien une collection de monstres. Une collection de monstres qui a été cachée, alors allusion aussi tout à fait évidente, c'est-à-dire personne n'est au courant, même pas le président des États-Unis d'Amérique et tout, qui ont été cachés depuis qu'on les a capturés, c'est-à-dire depuis le début des années 50. Alors ça va.
Zone 51.
La zone 51, il y a l'allusion y est dans le film, hein. Ouais, on a aussi une zone 51. Non, enfin, tais-toi, faut pas le dire. Bam, le mec se fait dégommer tout de suite après, tu vois. Enfin bon, des petits trucs comme ça, quoi. Et donc on va voir les monstres, mais qui font également partie du bestiaire classique du film d'horreur et tout. Alors déjà le chaînon manquant, hein, c'est plus ou moins une espèce de salamandre avec des pattes, mais avec une tronche de babouin, tu vois, un petit peu un truc comme ça, quoi. Enfin un truc, un mélange un petit peu improbable. On a également le savant fou, hein, qui est transformé en cafard, dont la voix en original est celle de Hugh Laurie, en version française c'est Stéphane Fraisse, donc on y parle quand même pas trop change quand même. Il y a également le blob, alors bon bah évident qui s'appelle le Bob, mais enfin pareil, on voit les images d'archives et tout qui ressemblent aux images du film, pas le film des années 80, mais le film original. Hein, des années 70 avec Steve McQueen. On a également l'insecte géant. Alors là, c'est l'allusion tout à fait évidente à Mothra, pas à Godzilla, mais enfin bon, parce qu'on nous voit des bandes d'origine, des bandes d'archives d'origine dans la télé en noir et blanc où on voit l'insecte géant, la mythe géante, hein, qui attaque des immeubles et tout, qui casse les immeubles en carton pâte. Donc il y a vraiment beaucoup de références à ce niveau-là. C'est assez rigolo quand même, mais ça va pas péter très haut non plus, quoi. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que bon bah on a des références qui sont relativement ancienne, hein, c'est-à-dire que bon bah vu la génération de parents qui peut aller à ce genre de film avec leur enfant qui c'est le genre de référence qui va les captiver justement un petit peu plus que l'action qui est plus ou moins linéaire, hein. Bon, il faut quand même reconnaître que maintenant on arrive à un point de sophistication au niveau de la technique, que le rendu des images et que les scènes sont vraiment très très captivantes et très très bien foutues. Là vraiment on arrive quand même à des sommets techniques qui sont très très intéressants au niveau du rendu de n'importe quoi, hein, que ce soit le bouger des poils ou d'une fourrure, hein, que ce soit une poursuite automobile, que ce soit une cascade à travers les rues de San Francisco, parce que l'action se délocalise un moment à San Francisco en Californie aussi. Là, c'est vraiment très très bien foutu. Par contre, bon bah les références, bah ça pète de tous les côtés, hein. C'est-à-dire que bon bah quand au début du film, on a les gars qui sont chargés de surveiller sur le radar tout ce qui arrive du ciel et tout, quand la météorite tombe, ils disent ah putain, il y a un truc qui tombe et tout, code Nimoy, enfin bon, des petits trucs.
Ah oui, d'accord.
Comme ça.
Pas mal.
Après quand le robot, la sonde envoyée par Galaxar, le méchant cornet de l'espace arrive et que c'est le président des États-Unis avec toute l'armée autour qui décide de parler avec lui et tout, quoi, il sort un clavier Yamaha DX7 et tout. Il commence à jouer les quatre notes de rencontre du troisième type et tout, ça marche pas. Ensuite, il commence à faire le salut Klingon, ça marche pas. Et ensuite, il se met à jouer le flic de Beverly Hills avec la rythmique funky du DX7 qui marche en même temps. Il se met à danser et tout, quoi, ça marche pas non plus et tout, quoi.
Et donc les grosses références
c'est du geek complet, mais bon, qui va dans toutes les directions. Alors bon,
c'est DreamWorks qui fait ça.
Ouais, il me semble,
c'est DreamWorks.
Ouais, c'est DreamWorks avec également avec
comme Gang de Rock, hein, comme tous
voilà,
les autres
voilà, films voilà. Que tu as cité. Voilà, donc au niveau des voix en version originale, bon, il y a Hugh Laurie donc qui fait le savant fou. Alors j'aimerais bien écouter la version originale juste quand le savant fou se met à partir dans des rires d'hystérique tels que le font les savants fous, tu vois, ça doit être pas mal en version originale. Il y a Seth Rogen qui fait Bob, Reese Witherspoon qui joue le rôle de l'héroïne du film, Suzanne, hein, donc qui devient la femme de 50 pieds et qui, quand elle est grande, s'appelle Génormica. C'est oui, de version originale, version française, hein, c'est le même. Également Kiefer Sutherland qui fait une voix dans la version originale. Donc c'est Monstre contre Alien, c'est tout à fait regardable, hein, tout à fait regardable. Hein, disons, ça dure 1h33. On s'emmerde vraiment pas une minute. Il n'y a pas de temps mort dans ce film. C'est ça qui est assez intéressant. L'histoire n'est vraiment pas du. Il n'y a vraiment pas de truc novateur dedans, quoi. C'est simplement une bonne petite friandise qui se laisse regarder avec délectation, comme si tranquille.
Surtout que là, c'est chaud parce que, comme si apparemment, il se frotte au genre SF cartoon un peu référencé. Pixar, ils avaient déjà fait ça avec Zen Destructible. Là, ils avaient abandonné le frontal avec Pixar, mais là, ils y reviennent un petit peu, même si Zen Destructible n'est pas sorti en même temps. Là, on va pas s'empêcher de faire la comparaison. Alors que quand ils faisaient Gang de requins, bon, c'était Nemo, Kung Fu Panda, c'était quand même assez loin, donc bon, là, ils ont pas peur, quoi.
Ah non, vraiment, c'est pour ça que bon, bah, à un moment, on peut être un peu sceptique et se dire, bon, bah, attention, parce que ça part dans tous les sens. Est-ce que vraiment ça va toucher sa cible, à savoir bon, bah, les enfants, de toute façon, parce qu'il y a suffisamment d'action, il y a suffisamment de au niveau visuel des choses qui vont captiver, mais par contre au niveau de l'histoire, au niveau de la scénarisation et de toutes les allusions, de toutes les références qui sont là, qui sont faites pour les accompagnants, on peut se dire que bon, mais ils pensaient peut-être également aux grands-parents, ouais. Qui vont ramener leurs petits-enfants au cinéma, hein, parce que bon, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment assez daté quand même, mais bon bah
okay, vieil SF comme on l'aime.
Ouais tout à fait quoi.
C'est vraiment comme Gang de requins en fin de compte, hein. Comme Gang de requins avec toutes les allusions, ah, oui. Avec le parrain Scarface etc qu'il y avait eu
voilà, mais là dans le registre science-fiction, voilà. Film d'horreur et tout ça, mais vraiment okay. À fond quoi.
D'ailleurs vous avez vu le teaser du prochain Pixar?
Oui, là-haut oui, excellent,
ça a l'air monstrueux ça.
Le petit scout.
Super commentaire.
On ne dira rien parce qu'on préfère vous laisser la fraîcheur. Mais quand franchement, moi je l'ai vu, j'ai fait non. Genre, c'est pareil, c'est comme les films de Eastwood, comme la dernière fois on disait, ils peuvent pas faire mieux. Non, c'est bon. Et là, tu ressors encore un sujet et tu vois juste l'abondance et tu fais merde, ils peuvent le faire.
13h12 et JB n'en revient toujours pas. Hélas, c'est du sport qui contrôle la télécommande.
Eh oui.
Zap zap.
Alors deux séries inédites et pas mal en plus, hein, franchement pas mal. Hein. La première, bon, j'ai rien vu du tout, quoi. Si j'ai vu quelques petits trucs comme ça, mais enfin bon, ça m'aidera pas plus. Hein. Ça s'appelle The Mentalist et c'est en cours de diffusion, hein, sur CBS. Hein, ça a commencé
oui,
depuis septembre 2008 et à partir de lundi soir.
C'est assez exceptionnel qu'il se lance comme ça en milieu de saison.
Et bah, à partir de lundi soir, donc 20h40 sur TPS Star, bien deux épisodes, les deux premiers épisodes du The Mentalist. Diffusé donc en ce moment par CBS depuis septembre 2008 et avec des scores tout à fait exceptionnels, 15 à 20 millions de spectateurs en moyenne pour regarder le show tous les mardis à 9h du soir, donc en prime time, hein, et c'est en cours de diffusion. La saison va s'achever en mai aux États-Unis sur CBS. Il reste 3-4 épisodes à diffuser, dont le prochain le 28 avril, donc mardi 28 avril à 9h du soir sur la chaîne CBS aux États-Unis. The Mentalist, c'est créé par Bruno Heller et David Nutter. Bruno Heller qui nous avait fait Rome déjà, hein, comme co-création. C'est un Anglais qui est né à Londres en 60, qui est scénariste, hein, diplômé de Brighton dans le Sussex et qui émigre à Los Angeles à partir de 97. Là, il fait des adaptations de la série anglaise avec Robson Green, Touching Evil. Mais une adaptation américaine, il fait également le scénario d'une série qu'on n'a pas vue chez nous qui s'appelle The Huntress, la chasseuse, qui raconte les histoires d'une chasseuse de primes avec Annette O'Toole, la maman de Clark Kent dans Smallville, et avec également James Remar dans cette série The Huntress. C'est James Remar qu'on voit également dans Dexter, hein, c'est le papa de Dexter. David Nutter, lui on le connaît également, hein, c'est donc il co-crée The Mentalist avec Bruno Heller, parce que lui c'est plutôt le réalisateur qu'on a vu dans pratiquement toutes les grosses séries, hein, réalisateur également coproducteur. Là c'est réalisateur et coproducteur du pilote de cette nouvelle série qui s'appelle The Mentalist, mais c'est également réalisateur de Sarah Connor Chronicle, Entourage, Soprano, Nip Tuck, FBI Porté Disparu, ER, West Wing, Roswell, Smallville, Supernatural.
Oh, c'est bon, hein, n'en jetez plus.
15 épisodes de X-Files, c'est là qu'on l'avait vraiment repéré. Qui dit X-Files dit Millennium. Et son début de carrière, c'est dans le début des années 80, c'est avec 21 Jump Street et la série dérivée Booker. Voilà, ça vous situe un petit peu le personnage, donc David Nutter. Alors, The Mentalist, c'est qui ? C'est Patrick Jane, interprété par Simon Baker, un Australien. Belle gueule, blondinet, comme ça et tout. Je suis sûr que ça va être le prochain de la pub Menen ou de la pub L'Oréal, je sais pas quoi, tu vas voir, sans problème. Patrick Jane, il a des faux airs comme ça de... je sais plus qui, là, un anglais, Jude Law, tu vois, un petit peu comme ça. Quoi.
Attention, Thomas, il sort
alors,
la documentation.
The Mentalist, c'est un personnage... Patrick Jane, c'est un personnage qui a une intelligence exceptionnelle et qui a une capacité d'observation hors norme et qui, donc, gagne de l'argent en se faisant passer pour un médium, avec une petite allusion à Medium, la série, tu vois. Mais le problème, c'est que sa vie change le jour où il y a un serial killer qui s'appelle Red John qui tue sa femme et sa fille. Et ce serial killer, d'ailleurs, là aussi, il y a un clin d'œil, mais on se demande en direction de qui. Il y a un autre clin d'œil, donc, parce que ce serial killer, quand à chaque meurtre, eh bien, il laisse un smiley sur le lieu du crime. Et donc, Patrick Jane donc intègre le CBA, le California Bureau of Investigation, et l'équipe de Teresa Lisbonne, interprétée par Robin Tunney, avec sous ses ordres Dwayne Yeoman, Tim Kang, Amanda Rigetti. Et donc, c'est son personnage qui est un petit peu à l'équivalent de Dr House, c'est-à-dire un personnage qui est le personnage principal d'une série qui va être chargé de résoudre une enquête, mais uniquement avec ses facultés intellectuelles et ses capacités d'observation. Un autre Sherlock Holmes, donc, mais là, vraiment, dans le domaine de l'enquête policière, avec un fil rouge tout au long de la saison, eh bien, la poursuite et peut-être le face-à-face avec ce serial killer, donc, cette histoire de vengeance, bien sûr, puisqu'il a tué sa femme et sa fille, mais également, peut-être des rapports un petit peu plus troubles entre ces deux personnages, qui ont l'air d'être deux personnages qui sont intellectuellement supérieurs aux autres. Donc, une série qui cartonne en ce moment, qui a même été une semaine numéro un des séries les plus regardées, battant les experts, battant les séries carton aux États-Unis, donc sur les gros networks, ça veut dire quelque chose quand même. Et ça débarque donc à partir de lundi soir sur TPS Star à 20h40, The Mentalist. Donc, 23 épisodes ont été tournés pour la première saison, mais je pense qu'il y en aura certainement une seconde.
Apparemment, TF1 qui réinvestit comme ça dans TPS Star, c'est pas un hasard, puisque eux qui ont toujours dénigré la TNT, ils ont vu que c'est le seul relais de croissance qui leur restait actuellement, justement, de ce côté-là, avec l'omniprésence de Canal+, ancien général d'image et tout le reste. Et apparemment, ils vont racheter des parts de ABSAT. Et négociations seraient en cours. Ça fait un petit peu peur, je sais. Paraît même qu'ils vont relancer, tenez-vous bien, les Cités d'Or.
Cool.
Enfin, ça fait que 10 ans qu'on voit passer des Raouf, ceci dit.
On verra, parce qu'ils nous ont sorti qu'ils voulaient ressortir Dorothée du placard, mais c'était sorti l'info le 1er avril, évidemment.
Mais Dorothée, ils l'ont sorti du placard. Chez DF1.
Tu écoutes pas le super week-end.
Et ça fait longtemps.
Ils voulaient le mettre carrément chez TF1.
Non, IDF1. IDF1, c'est la télé locale sur l'Île-de-France.
D'accord.
Donc ils ont reformé l'équipe.
Mais là, ils voulaient la renvoyer sur...
Mais une vraie chaîne, tu veux dire ?
Oui. Généraliste.
Mais on s'en fout, on a les redifs. Sur AB1.
Oui, c'est vrai. Ah, bah, c'est pour les croissants. C'était voilà. Bien. C'est...
Bon, oh, vous arrêtez un peu. Oui.
Bon, une autre série inédite à venir, c'est mardi prochain sur Série Club. Et c'est sur Série Club parce qu'on a, on l'avait vu à l'occasion des screenings, donc le premier épisode, l'épisode pilote. Et c'est d'ailleurs la série qui avait remporté le plus de suffrages, hein, donc qui, qu'on était sûr de voir. Et ben, elle arrive. C'est Veritas The Quest, créé par Patrick Massett et John Sinman. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une série qui est relativement ancienne, car eh bien, elle a été diffusée par ABC entre janvier et mars 2003, mais que ABC n'a diffusé que 4 épisodes, alors qu'il y a 13 épisodes de 42 minutes qui ont été tournés de cette série, qui est un petit peu un mélange d'Indiana Jones, jeune, tu vois, avec... une espèce de conspiration. Ça raconte l'histoire donc de Nico Zont, interprété par Ryan Merriman, qui est le fils de Alex Carter. Ah, là, le truc est évident, hein, Carter, Howard Carter, le père donc Solomon Zont, qui officiellement est archéologue. Là, tu vois quoi, l'allusion est vraiment évidente.
Mais en fait,
qui dirige une entreprise un petit peu secrète, hein, qui est chargée de découvrir tous les secrets un petit peu bizarres, parapsychologiques, paranormaux, un petit peu partout dans le monde, avec une équipe composée de Juliette Droyles, interprété par Kobe Smulders, de Calvin Banks, interprété par Eric Balfour, et de Vincent Chiminou, qui n'est autre que...
Le fils de Michael ?
Non, qui n'est autre que l'ancien ennemi de Solomon Zont, le père de Nico, et qui est interprété par Arnold Vosloo.
La momie ?
Oui, la momie, entre autres. Et donc, mais seulement, eh bien, une puissante organisation, genre le Spectre et tout, qui s'appelle la Dorna, essaye de s'approprier les secrets, hein, de cette entreprise qui est dirigée, donc, officieusement par Solomon Zont. Et bon, c'est pas mal, ça se laisse bien regarder. Le pilote est très très intéressant. Alors bon, on suit les aventures du fils, hein. C'est le fils qui est le héros, donc, et qui au début, alors c'est assez rigolo parce que bon, ben, comme son père est plein de pognon et tout, lui il a carrément une nounou, mais enfin bon, c'est déjà un ado, quoi, on va dire. Donc il y a des petites répliques et tout parce que la nounou n'est pas désagréable à regarder, bon, qui soit assez rigolo. Une nounou qui est là pour une gouvernante, hein, qui est là pour lui faire les cours parce qu'il est tout le temps entre deux avions et tout, il peut pas aller l'école et tout, il se fait virer de toutes les lycées où il va, donc il faut qu'il suive des cours particuliers et tout, et il va se retrouver emmanché dans cette histoire, découvrir quelle est la véritable identité de son père et intégrer l'équipe donc de Solomon Zont. Et ça se laisse bien regarder, donc ça peut être assez intéressant. Veritas The Quest, c'est sur Série Club à partir de mardi prochain 20h40. Sinon il y a également au niveau des inédits, c'est des débuts de saison qui sont inédites, par exemple Ghost Whisperer, la saison 4 cet après-midi sur TF1 à 16h, ou bien la saison 3 de Supernatural sur M6 ce soir à 23h, ou la saison 4 de Boston Justice. Ça c'est pas mal aussi, hein, du tout, avec des James Spader et le Captain Kirk qui joue un rôle très très intéressant, enfin le rôle d'un avocat vraiment très très intéressant et tout, le mec un peu facho, enfin républicain, mais qui est complètement allumé et tout, mais c'est très très bien quand même. Regardez, il y a quelques longueurs selon les dans certains épisodes, mais il y a des épisodes qui sont pas piqués des dernières. Donc là, c'est la saison 4 sur 13e rue à partir de lundi 20h40. Voilà, pour aller jusqu'à la nuit, quelques petits films. Là,
bon, en tout cas, en parlant de série, j'étais sur le cul là, avec le double dernier épisode de la saison de Doctor House là, qui est sorti. Trop triste.
Dans la tête de House. Ouais.
Trop triste.
De Wilson.
Non, c'est dans la tête de House le nom de l'épisode. House, ouais.
Dans le cœur de Wilson, le dernier.
Le deuxième, oui, par oui. Voilà.
Tout
pas
à
mal,
fait.
Pas mal. Enfin, toujours aussi étonnant. Mais surtout, comme je venais de voir justement l'acteur principal dans ME5, où il joue le patron du MI6, où il est où il est cette réplique absolument fabuleuse. Nous autres fans de Wagner adorons sodomiser des jeunes ados déguisés en uniforme Waffen SS et tout. Il joue mais l'ignoble, l'horreur absolue ce type, il est absolument infect.
Ouais,
et c'est le meilleur copain de Stephen Fry, c'est pour ça que Stephen Fry est plusieurs fois présent dans Doctor House.
Et t'as remarqué également le serveur du bar dans lequel ils vont.
Oui, le chauve.
Oui,
le chauve, c'est Fred Durst qui est cité au générique et qui est le chanteur de Limp Bizkit.
C'est pas vrai.
Voilà.
Ah, ok, d'accord.
Behind Blue Eyes.
Ah, bah, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il s'est fait confisquer ses clés de sa moto. Ça m'étonnait pas. Voilà.
Eh ouais. Allez, quelques films à présent. Alors, il y a de tout et de n'importe quoi. Enfin, il y a beaucoup de bons films, on va dire, hein, des gros blockbusters, enfin pour nous, quoi. avec là, tout d'abord, un petit western qui paye pas de mine comme ça, mais qui est relativement bien quand même. C'est Big Jake sur RTL9 ce soir à 20h35. Un George Sherman de 71 avec John Wayne, donc qui était vachement vieux, il allait crever bientôt. Richard Boone et Maureen O'Hara. Hein,
franchement, son Stetson assez haut, on le reconnaît à la silhouette.
C'est une histoire de vengeance encore et tout, un enlèvement et de vengeance et tout. Donc, mais c'est écrit par les scénaristes de Dirty Harry, les premiers. Donc, ça remonte bien hein, quand même, quoi. Sinon, sur Sci-Fi ce soir à 20h45, il y a Matrix Reloaded en version multilingue.
Pour moi, le meilleur des trois.
Et
c'est l'humour.
Sincèrement.
Mais il est resté des séquelles, sa chronique de Dragon Ball Evolution.
Ah ouais, ouais.
Tu vois, JB, tu ne t'investis pas à fond.
Largement le meilleur des trois.
Alors sinon ouais,
je vois le résultat, je comprends, mais je préfère. Hein. Résultat, excuse-moi Thomas, mais tu seras banni la semaine prochaine. Ça tombe bien, il n'y a pas émission. C'est vraiment pour ça.
C'est cool. ou alors sinon ce soir un téléfilm vachement intéressant hein, je suis tombé dessus je me suis dit vu le casting ça peut être rigolo et tout de Richard Dornelm en 2002 La rançon de la haine, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire de cet attentat à la bombe qu'il y a eu dans cette petite ville de l'Alabama qui s'appelle Birmingham où quatre fillettes sont mortes et on a toujours soupçonné des gens du Ku Klux Klan, mais on n'a jamais pu les condamner jusqu'à la ténacité d'un inspecteur et
oui, parce que l'aveu c'est un
du fils.
C'est un procès qui a eu lieu super loin, super tout
et,
récemment.
Le procès a eu lieu au début des années 2000. Donc, ouais. Et les gens ont été condamnés.
Plus de 50 ans après les faits.
Non, 30 ans. 30 ans c'était en fin des années 50, début des années 60, quoi.
C'est avec Jessica Alba, c'est ça? C'est celui-là?
Pas du tout. Non. Alors, c'est avec Tom Sizemore.
C'est le prix de la
haine. Ving Rhames, La rançon de la haine, quoi. Et Richard Jenkins, hein, qui joue le rôle du père de Tom Sizemore, hein, qui est vraiment très inquiétant. Enfin, qui joue vachement bien, quoi, le rôle de ce mec sudiste avéré, membre du Ku Klux Klan, mais qui a ses convictions. Enfin, bon, bien foutu, Tom Sizemore également dans le rôle du fils et tout, c'est très bien. Ça se laisse regarder hein, de toute façon quoi. Donc c'est sur Virgin 17 ce soir, 20h35, La rançon de la haine. Et c'est tiré vraiment d'une histoire vraie, donc hein, qui est un des événements qui a été à l'origine de la révolte des Blacks et de la prise de conscience des Blacks et tout ça quoi. Sinon, ça c'est tout pour ce soir. Donc demain soir sur TPS Star, Les promesses de l'ombre, le Cronenberg de 2007, ça se refuse pas à 20h40. Voir un peu plus tard hein, sur RTL9 à 22h25 le Christine de Carpenter avec Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky, Harry Dean Stanton. Ouais, ça se regarde, ça se laisse regarder également. Lundi c'est plus un petit peu du n'importe quoi avec Canal Plus Décalé qui vous propose récent Steven Seagal à 20h45, Urban Justice de Don E. Fauntleroy avec Steven Seagal donc et Eddie Griffin.
Le meilleur de tous les films que t'as dit.
Non,
non, là c'était un peu flag.
Merde. Mais ça fait pas le poids du tout, mais alors du tout avec ce chef-d'œuvre du polar sur Ciné Polar lundi à 21h, Assurance sur la mort de Billy Wilder en 43. Alors celui-là il tue, il est magnifique. Fred McMurray, Barbara Stanwyck et Edward G. Robinson, c'est tiré du bouquin de James McCain, adapté au cinéma par Chandler. Celui-là il tue, ils en ont fait un remake dans les années 90 je crois avec Nicolas Cage que c'est une nullité, que tu le crois pas, que c'est une grosse merde.
Ça s'appelle comment le remake?
Il a un nom différent, mais c'est la même
histoire. Assurance sur la mort.
Ouais, ouais, c'est la même histoire, quoi.
Ah, c'est bon.
C'est la même histoire.
C'est pas un film de John Dahl?
Peut-être. Non, non, je crois
que c'est pas Red Rock West ou.
Non, pas du tout, pas du tout.
C'est bien Red Rock West.
Ouais, ouais, c'est bien. Non, mais c'est pas du tout ça. Non, mais c'est un autre film, mais plus grand blockbuster, tu vois, quoi. Enfin bon, mais. Enfin, l'original là, Billy Wilder en plus, sa meilleure époque, laisse tomber.
Répète un petit peu le synopsis. Répète un petit peu le synopsis de.
Oh là, 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 c'est loin. Oh là, c'est loin.
Parce que là, on va te retrouver ton Nicolas Cage. Hein.
Alors, mais c'est sur Ciné Polar, donc, et c'est une soirée Billy Wilder avec oui. Après Assurance sur la mort, Le Poison, un film qui a tourné 2 ans plus tard en 45 avec Ray Milland, John Wiedemann et Patrick Terry, qui est aussi pas mal aussi, quoi, l'histoire d'un écrivain alcoolique et tout, quoi. C'est plus un rapport par un film, le rapport du personnage principal à l'alcool. Avec tout ce que ça peut concerner, c'est vraiment très très bien. C'est pas du tout un polar, hein, mais c'est plutôt une espèce de, on va dire, un drame de mœurs, quoi. Mais c'est vraiment très très bon, très haut niveau. Ou sinon, sur la chaîne Action, il y a encore un autre Steven Seagal, L'honneur des Yakuza de Mink en 2005, à 20h40, avec Matthew Davis,
direct
et Takao
vidéo.
Osawa.
Et tu les as vus, tous ces Steven Seagal dont tu parles?
Non.
Ah, c'est dommage.
Non, il y en a un ou
moi
deux,
non plus, je dois dire.
Non, mais ça vaut pas tellement le coup. Hein.
D'accord, alors je tiens à signaler quand même que Thomas, actuellement, sur son blog, fait pas mal de stars de films d'action, voilà, non, de bavés.
Parce que
va falloir que tu fasses une intégrale des chroniques Steven Seagal et que tu l'annonces.
Parce que c'est le genre de film où quand tu connais Steven Seagal, quoi, tu regardes, et puis quand tu regardes les scènes de combat, quoi, tu te dis merde, mais j'ai pas foutu la vitesse lente et tout, il faudrait que je mette en accéléré un peu parce que c'est un peu trop lent, quoi. Mais non, tu es à la vitesse normale du film.
D'accord.
Par contre, là où ça va très vite, c'est mardi sur Canal Plus Cinéma, 20h45. Tu avais chroniqué ce DVD il y a 15 jours, 3 semaines, Flashpoint de Wilson Yip. Excellent, excellent, avec Donnie Yen, Louis Co, Ray Loy, entre autres, ça vaut vraiment le coup.
Bah, tu parlais de Matrix Reloaded, hein. C'est le Séraphin qui joue dedans, le méchant.
Ah ouais, d'accord, ok. À vérifier sur place, donc, mardi pour Flashpoint, ce soir pour Matrix Reloaded. Il y a également mardi prochain sur Ciné Cinéma Classique, Le Soldat Bleu à 21h55. Alors, c'est un très grand film c'est pas un western, mais un très grand film, les premiers films qui ont été un petit peu conscients sur le western et sur la vraie histoire, sur ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire plutôt le versant indien. C'est tourné par Ralph Nelson en 70 avec Candice Bergen, Peter Strauss, s'il était jeune, John Anderson et Donald Pleasance. Alors, ça raconte l'histoire du massacre de Sand Creek en 1864, hein, suite à une vengeance où un village entier indien a été massacré. Hein, il y a eu deux survivants et tout, quoi. Et c'est vachement bien foutu comme film, c'est excellent, quoi. Donc, c'est sur Cinéma Classique mardi prochain à 21h55, Le Soldat Bleu de Ralph Nelson. On a également mardi, là c'est également dans le grand classique, mais là faut se préparer toute la soirée à la limite avec des amuse-gueules, des sandwichs, parce que le film dure 3h15, mais c'est un monument. C'est Le Géant de George Stevens, avec James Dean, Liz Taylor, Rock Hudson, Carole Baker, Hugh Hopper, j'en passe et des meilleurs, mais enfin bon, c'est vraiment une fresque gigantesque et tout, c'est magnifique, c'est très 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 bien. C'est sur TCM mardi à 20h45. Ou alors Orange Ciné Géant, mardi prochain à 20h40, vous propose Estouffade à la Caraïbe, André Hunebelle 66, avec Frédéric Stafford dans le rôle de Hubert Bonisseur de la Batte.
Ah.
Et pour voir un petit peu de chair fraîche, Gene Seberg dans ce Estouffade à la Caraïbe. Mercredi, c'est un spécial CNPT avec sur NT1, 20h35, Shark Hunter de Matt Code avec Antonio Sabato Jr. Sur NRJ 12 à 20h35, Alien vs Hunter avec William Catt et Dede Pfeiffer. Ou alors sur RTL 9 à 18h40, Rick Hunter.
Ah oui!
La saison 2.
Je viens de la comprendre, elle est pas mal.
Le KX, tout ça c'est mercredi donc. Jeudi, Direct 8 vous propose la soirée Conan avec tout d'abord le barbare à 20h40, suivi du destructeur à 22h45. Ou alors, TF6 vous propose, vous rediffuse le pas mal Menace Toxique de Steven Seagal.
Encore
avec,
ah non
avec
ah oui
oh Marc oui, si. CSI, Erling Lundberg et Chris
d'accord,
Christopherson. Le film est de Félix Enriquez Alcala qui a tourné dans réalisateur de nombreuses séries. Hein. NYPD, il a fait des épisodes de The Shield, enfin bon,
que du bon.
De Law and Order, enfin bon, c'est un faiseur confirmé. Je veux dire, c'est comme un mec, c'est comme David Nutter, c'est-à-dire c'est pas des réalisateurs qui n'ont jamais percé dans le cinéma, mais qui en télé sont des valeurs sûres. Tu peux leur confier un projet, pas de problème et tout. Les mecs, ils vont te tourner ça à la manière de
Clark,
sans problème, nickel. Et donc là, c'est pas mal. En plus, ça me lasse toxique. Hein, c'est franchement quoi. Jeudi prochain également sur Ciné Cinéma Frisson, on a Universal Soldier. Ah bah ouais, s'il y a Steven, il faut JCVD. De Mick Rogers en 99.
Pas mal de scènes à poil dedans d'ailleurs.
Ouais, c'est sur Ciné
Cinéma. Pour le plaisir de ces dames.
Ou alors vendredi. Alors vendredi sur Arte bien sûr, 22h15. Là c'est bien, je suis content. C'est comme l'épisode de hier soir, Berlin, Brigade criminelle. Ils nous le remettent tôt. Et c'était 22h20 hier soir.
Ah ouais,
ce sera 22h15.
Pas des super flics, ouais, ouais.
Vendredi
flics
prochain
super.
Avec Verhunderungen. Sinon, attends, il me reste encore une feuille. Ah non, c'est marqué tourner, voilà. Pourquoi je tourne pas, quoi, là. Sinon, ce soir.
Et ouais.
Sinon, ce soir, sur NRJ 12, il y a 20h35, Hard Times, un film de téléfilm de Al Needham avec Burt Reynolds. Vous dit rien?
Non.
Cours après moi, shérif.
Oh.
Ah oui. Ben oui, bah, c'est les mêmes. Et dans celui-là, c'est plutôt le genre polar, un petit peu hard-boiled, on va dire, mais mou du genou parce que bon, ils sont un peu vieux, quoi. Il y a qu'à avoir Burt Reynolds en 99. Hein, c'est plutôt le malin, le genre de mec à faire une poursuite dans
en
la
fauteuil
rue,
roulant.
Ou alors, bon, aidé par Keith Carradine, qui est plus de première jeunesse non plus. Charles Durning, on va dire, c'est pareil, ça fait proche du troisième âge. On se rattrape un petit peu avec Ted McGinley. Mais enfin bon, ça peut se laisser regarder quand même. C'est ce soir, Hard Times. Ou alors vous pouvez préférer quand même sur TF6 ce vendredi soir. À 20h40, Secousse à Los Angeles de Richard Pépin en l'an 2000 avec Tracy Lords.
Secousse, oui, d'accord.
Secousse.
Okay.
Mais également Gary Daniels et Jeff Fahey. Et c'est pour ça qu'il y a
avec la Silicon en fait. Valley.
Ou alors, je vous propose également, vendredi prochain à 20h35, Méga Cyclone de Philippe Girotte en 2003. Il nous avait fait Shark Attack et le retour des requins tueurs en 2002.
Youpi!
Et là, il s'attaque au Cyclone avec Del Midkiff et Michael Ironside. Les deux ensemble.
Youpi!
Les deux ensemble. Et on termine par un Steven Seagal avec Orange Shock. Vendredi prochain à 21h. Nico, celui-là, c'est un bien.
Ah oui, ah,
très
c'est
bien.
De la balle.
Andrew Davis, 88. Pam Grier, Sharon Stone. C'est bon, la messe est dite. Nico, vendredi prochain sur Orange Cinéchoc.
Complètement autre chose. D'ailleurs, s'il veut bien partir,
Non, c'est pas gentil de dire ça, JB.
Voilà, tout à fait autre chose avec tout à l'heure. Donc,
merci.
Actuellement en cours, donc la quatrième édition du festival BD Bulle d'ombre, qui est donc à la salle des fêtes de l'Imérac, c'est rue Xavier Darras, c'est sur les Coteaux, avec donc Jérôme Le Reculé pour la série Arthur, Al Jazeera pour Candélabre, Baptiste, Isabelle Bautian, Luigi Critone, Damien Horn pour la Métamorphose, on en a parlé tout à l'heure, Le Pitec, Nicolas Otero, Cyril Pomès, Nadine Thomas, Xaël, Joseph Lacroix et Swartz, sachant que Cyril Pomès sera en dédicace la semaine prochaine à la librairie Album, que la semaine prochaine il y a aussi le festival du jeu, le 8e du nom, donc au parc des expositions, et le salon littérature et vin, où j'y serai pour consommer avec modération à Balma. On y sera tout simplement parce que la semaine prochaine le supplément week-end ne sera pas là pour raison de direct en extérieur. Mais vous inquiétez pas, on sera bientôt de retour.
Donc Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Eh bien, tout à fait. Nous avons une interview de Florent Modou en direct de la grotte cachée obscure chez les ch'tis, du super-héros à l'école, de l'Hulk rouge. On a eu du cafard, De l'agent secret parachuté au Brésil, des monstres et des femmes géantes, des films de Steven Seagal qu'on aimerait accélérer, du western classico, du Hunter en pagaille, du Berlin Brigade criminel, mais ça c'était un peu obligé aussi. Du sport se laisse des notes pour plus tard sur sa feuille, et de la secousse avec Tracy Lords.
Ah ouais, 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 nom d'air commissaire de Berliner.
Non, ça c'est la musique de Marble Madness derrière.
Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net.
Oui, oui.
Exactement. Dans voilà, prochain épisode, Xavier.
Dans 15 jours. Pas d'interview prévue normalement, mais bon, il y aura un petit truc sur Pogno.
Oui, Pogno sur la falaise.
Donc nous aurons Spécial Sab qui viendra en guest star nous faire son aventure.
Spécial Miyazaki Senpai avec des adorateurs sur le plateau. On ressortira les peluches.
Évidemment. On vous laisse de suite avec du sport. Ciao, bye bye. Il a des places pour les cowboys fringants tout à l'heure à faire gagner. Ciao.